Bonjour Fabrice, et aujourd'hui au programme de 2000 ans d'histoire, un des plus célèbres militants de la cause des Noirs aux États-Unis, Malcolm X. Une autre stratégie arrive, ce seront des cocktails Molotov, des grenades, des bulletins de vote ou des balles de fusil. Ce sera la liberté ou ce sera la mort. Malcolm X. D'histoire. Quand on demandait à Malcolm X pourquoi il avait choisi ce nom, il répondait toujours « Je m'appelle X parce que j'ai abandonné mon nom d'esclave et que je ne sais pas quel est mon vrai nom ». Ce révolté qui n'a jamais pardonné aux Américains l'esclavage dans lequel les Noirs avaient perdu jusqu'à leur identité, fut avec Martin Luther King le dirigeant le plus connu de la lutte contre la ségrégation aux États-Unis. Jusqu'au 21 février 1965, ce jour-là, dans la salle archi-comble de l'Audubon Ballroom de Harlem, Malcolm X venait à peine de saluer la salle du Salam Aleikum des musulmans noirs, que trois hommes l'abattaient de 16 balles tirées à bout portant. C'est ainsi qu'est mort Malcolm X, victime d'une violence que lui-même n'avait jamais cessé de justifier pour défendre la cause des Noirs aux États-Unis.
How can you justify being nonviolent in Mississippi, in Alabama, when your churches are being bombed, and your little girls are being murdered, and at the same time you're going to get violent with Hitler and Tojo and somebody else that you don't even know?
Comment justifier la non-violence au Mississippi ou en Alabama, alors que vos églises sont dynamitées, que vos petites filles sont assassinées, et qu'en même temps vous êtes violent contre Hitler, contre Tojo, contre des gens que vous ne connaissez pas? Si la violence est mauvaise aux États-Unis, la violence est mauvaise au dehors.
And teach us how to be violent in defense of her.
Si l'Amérique a raison de faire de nous des soldats et de nous apprendre la violence pour la défendre.
For you and me, to do whatever is necessary to defend our own people right here in this country.
Alors nous avons raison, vous et moi, de faire tout ce qui est nécessaire pour défendre notre peuple ici, dans notre pays.
C'était Malcolm X en 1963. Philippe Godard, bonjour.
Bonjour.
Vous venez vous-même de publier un autre discours de Malcolm X, 2 ans plus tard, en 65. Malcolm X y a considéré, et c'était pour ça qu'il était connu, que seule la violence pouvait améliorer le statut des Noirs aux États-Unis. Au fond, il était en quelque sorte l'anti-Martin Luther King. Mais alors, on l'oublie souvent aujourd'hui, presque aussi populaire que lui.
Il était extrêmement populaire dans la communauté noire, d'abord à Harlem, bien sûr, mais dans l'ensemble des États-Unis, vraisemblablement parce que son discours était tellement à l'opposé de Malcolm, du discours de Luther King, qu'il était le seul, finalement, à incarner une politique autre.
Alors, une violence, vous le rappelez dans ce livre, où il n'y a pas que ce discours de 65, mais aussi un bref rappel de l'histoire, de la vie de Malcolm X, qui remonte à son enfance. Il faut dire qu'elle est assez épouvantable. D'abord, il naît dans les États-Unis en pleine ségrégation. On y reviendra. Il s'appelait John Little, né d'un père qui lui-même était un militant noir et qui est mort dans des circonstances étranges, écrasé par une voiture, sans doute assassiné en fait par des blancs en 1931.
Oui, on peut penser que son père est mort assassiné, et de toute façon la famille de Malcolm Little donc avait déjà reçu des menaces de mort à plusieurs reprises. Sa maison avait été détruite une première fois, incendiée une seconde fois. Quand la maison est incendiée, personne, ni la police ni les pompiers n'étaient venus arrêter l'incendie. Donc très très jeune, Malcolm était très très sensibilisé à l'injustice. Et d'ailleurs, on souligne souvent que son père était un pasteur baptiste qui suivait les idées de Marcus Garvey, mais la mère de Malcolm X, donc il s'appelait Louise, elle écrivait dans la revue des partisans de Marcus Garvey.
Marcus Garvey, il faut le rappeler, qui préconisait le retour des Noirs américains en Afrique, hein, ce qui d'ailleurs s'était un peu produit au 19e siècle avec le Libéria, mais enfin, il voulait que Marcus Garvey et le père de Malcolm X voulaient effectivement poursuivre ce mouvement. Autre chose éprouvante, Malcolm X, et je crois que ça a été l'objet de railleries de la part de ses camarades noirs, ou même des Blancs, il n'avait pas le teint totalement noir, et ça tient au fait que sa grand-mère avait été violée par un Blanc. Là aussi, il l'avait su, il en avait conçu une grande animosité vis-à-vis des Blancs.
C'est pour ça d'ailleurs que son surnom c'était le Rouquin, parce qu'il avait pas, ses cheveux n'étaient pas noirs, et puis il avait un teint qui était relativement clair. Donc effectivement, il y avait une animosité à l'encontre des Blancs qui était, on peut dire d'une certaine façon, qui était gravée dans son être.
Et une animosité qui va se poursuivre. Après la mort de son père, sa mère devient folle. Il est arraché, je crois, sa mère. Il est confié à une famille d'accueil ou à des familles d'accueil.
Alors il est confié à des familles d'accueil, effectivement, qui souvent ont des opinions religieuses extrêmement tranchées. Mais surtout, quand il est arraché à sa mère. Ça devient très très difficile pour lui parce qu'il se retrouve à l'école, ce qui est plutôt bien, mais il est le seul noir dans cette école. Et pour lui, d'un seul coup, tout bascule, effectivement. Il est dans un univers qu'il ne connaît pas et qu'il ne comprend pas. Et il a plus du tout, il est arraché à sa mère, à ses frères et sœurs, parce qu'ils étaient nombreux dans sa famille. Il se retrouve tout seul.
Et dans une école où son professeur lui apprend que même s'il est un excellent élève, eh bien, il ne peut pas faire le même métier que les Blancs.
Il faut être réaliste. Tu sais que tout le monde t'aime ici beaucoup, mais tu es un nègre. Et vouloir être avocat, ce n'est pas réaliste pour un nègre.
Ben pourquoi, monsieur Ostrowski? J'ai les meilleures notes de la classe. Les autres m'ont élu chef de classe. Je veux être avocat.
Voyons, je te demande de réfléchir à un métier possible. Tu es adroit de tes mains. Un métier manuel. Tout le monde te donnerait de l'ouvrage, moi le premier. Et si tu devenais charpentier? C'est un bon métier pour un homme de couleur. Il n'était pas charpentier, ton papa? Jésus était charpentier. Tout le monde t'aime bien. Tu devrais en profiter. N'oublie pas ce que nous avons dit. La réussite appelle la réussite. Répète-moi ça.
La réussite appelle la réussite.
C'est vrai, à condition d'être réaliste.
Et c'était un extrait de l'excellent film de Spike Lee, Malcolm X, et une scène parfaitement authentique à vous lire, Philippe Godard. Il apprend, il veut être avocat, pas moyen, on lui dit que c'est pas possible pour un noir.
C'est effectivement une scène qui raconte dans sa propre autobiographie, et effectivement le professeur, d'après les mots de Malcolm X, lui répond c'est pas réaliste de vouloir être avocat pour un nègre.
Et ça a profondément marqué, hein. Je crois que c'est un moment fondateur, au fond, dans ses choix à venir.
En tout cas, c'est effectivement ce qu'il raconte dans son autobiographie. Il raconte que le monde, là, d'un seul coup, bascule. Il comprend que, même s'il est premier en classe, comme il le souligne dans cet extrait, même s'il est premier en classe, même s'il a été élu chef de classe, il a aucune chance d'arriver à ce genre d'emploi, avocat. Et effectivement, après, tout au long de sa vie, il n'arrêtera pas de donner des exemples dans ses discours. Il dit, mais regardez les Noirs qui ont réussi. Effectivement, il y en a certains, ils sont chez le maire, etc. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont cireurs de chaussures. Et c'est les gros bonnets noirs. À un moment donné, dans un discours, il dit, mais les gros bonnets noirs, c'est ceux qui cirent les chaussures des gros bonnets blancs.
Donc un révolté, mais un révolté pas du tout dans l'action politique. Au début, il quitte l'école, mais c'est pour devenir un véritable gangster. C'est pour la délinquance.
Disons que ça lui apparaît comme la seule solution pour s'en sortir. Il n'a pas envie d'être charpentier comme lui proposait son professeur. Il voit que la société américaine, il faut pas oublier que à ce moment-là, on est dans les années 40, il y a quand même de l'argent, etc. Et puis lui, il est privé de tout ça. Donc il a envie de participer au rêve américain. D'ailleurs, c'est peut-être ça ce qui va le différencier après de Martin Luther King, qui lui se fera toujours référence au rêve américain, tandis que Malcolm X, lui, on peut dire que d'une certaine façon, il a tenté de goûter du fruit de tout ce que proposait l'Amérique pour finalement échouer finalement.
Et presque l'envie aussi à cette époque-là d'être blanc. Hein, il a presque honte d'être noir.
Ah, il a honte d'être noir. D'ailleurs, il se décrêpe les cheveux avec son ami, un ami délinquant, enfin qui s'appelle Shorty et donc qu'on voit dans le film de Spike Lee d'ailleurs. Et il se décrêpe les cheveux. Il raconte d'ailleurs dans un passage qui est assez amusant, à quel point ça brûle, parce qu'ils utilisaient des produits qui n'avaient rien à voir avec les produits actuels. Donc il raconte à quel point ça brûle les cheveux, et il écrit toujours dans son autobiographie qu'il venait de réaliser le premier pas vers la dégradation du corps que Dieu lui avait donné.
Et avant un deuxième pas qui va être la prison, en 46, il est condamné à la prison, il se fait arrêter. Et là, c'est une chose qui est assez courante encore aujourd'hui d'ailleurs. Voilà ce délinquant qui se convertit à l'islam.
Il se convertit à l'islam sur le conseil de son frère, de son plus jeune frère, Reginald. Et puis parce que il voit qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la prison. Il voit que les noirs sont pas traités à égalité avec les blancs. Il voit qu'il y a plus de noirs que de blancs. Et puis il comprend que quand même il faut sortir de cet engrenage. Alors il comprend avec ses moyens qui sont par certains côtés, qui sont vraiment les moyens d'un autodidacte. Par exemple, il recopie intégralement un dictionnaire pour pouvoir après lire des livres. Donc, il faut s'imaginer quand même recopier intégralement un dictionnaire. C'est une tâche qui est extrêmement fastidieuse. Mais à partir de là, il va devenir le porte-parole des détenus musulmans. Il va demander à la prison que les détenus, que les cellules, pardon, soient orientées vers l'est pour qu'ils puissent prier vers la Mecque. Il va exiger des repas sans porc, etc.
Il devient un fervent, il le restera jusqu'à la fin de sa vie, un fervent musulman, et membre donc d'un mouvement qui datait des années 1930, je crois que ça s'appelait la Nation de l'Islam, ce qu'on appelle les Black Muslims en fait.
Alors c'est effectivement le même, c'est pareil, la Nation de l'Islam et les Black Muslims, qui avait été fondée en 1930 par un premier personnage étrange qui a disparu, qui s'appelait Fard. Et puis en 1934, Elijah Muhammad, enfin, son vrai nom c'était Elijah Poole, et lui aussi a changé son nom d'esclave en nom musulman. Donc Elijah Muhammad refonde la Nation de l'Islam, et puis c'est avec Elijah Muhammad que Malcolm Little, il n'était pas encore Malcolm X, rentre en contact.
Là, il devient Malcolm X au moment où il va sortir de prison en 1952, et au moment où la lutte contre la ségrégation battait son plein aux États-Unis, une archive pâtée de 1957.
One of the interesting developments of this always interesting young man called Cassius Clay is that he has changed his name.
La rentrée des classes a ranimé aux États-Unis la douloureuse querelle que la loi d'intégration des Noirs dans les écoles blanches avait essayé de résoudre. Les incidents de Little Rock dans l'Arkansas ont prouvé au gouvernement américain, s'il en était besoin, que la ségrégation est une hydre à mille têtes qu'il lui sera difficile de terrasser. On connaît toutes les péripéties de cette nouvelle crise raciale. Barrages de police, bousculades, insultes s'opposant aux tentatives des étudiants noirs pour accéder aux écoles que la loi leur a ouvertes.
I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart. To be me, then you'd see and agree that every man should be free.
Nina Simone, I wish I knew how I would feel to be free. Oh, it would feel to be free. Je voudrais savoir ce que cela ferait d'être libre. Une chanson de l'époque où la lutte contre la ségrégation est à son apogée. À ce moment-là, Philippe Goddard, hein, ce sont les événements. Il y a d'abord cette affaire du bus de Birmingham qui va mettre en évidence l'action non violente de Martin Luther King, puis ensuite ces événements de Little Rock. Les enfants noirs ont le droit d'aller dans ces écoles, mais on essaye de les en empêcher. Et ça, c'est vraiment les années 50. C'est vraiment l'apogée de cette lutte contre la ségrégation.
Oui, c'est sûr. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que finalement, la ségrégation est abolie par étapes. C'est extrêmement lent. Et donc, il y a certains moments, comme vous dites, les événements de Little Rock, il ne faut pas oublier que le président Eisenhower a dû envoyer des parachutistes pour que les enfants noirs puissent aller à l'école. C'est quelque chose qu'on a trop souvent tendance à oublier parce qu'on a tellement focalisé sur la lutte non violente à Montgomery, pour cette histoire de bus avec Rosa Parks. Et effectivement, Malcolm X, lui, propose, et il n'est pas tout seul, il propose d'aller plus vite vers la déségrégation.
Et en prenant une importance considérable au sein de ce mouvement auquel il adhère à sa sortie de prison en 52, en 57, 58, 59, il en devient vraiment une figure de proue. Pourquoi ? À cause de ses talents peut-être d'orateur ?
Alors d'abord à cause de ses talents d'orateur, c'est absolument certain. Mais Malcolm X expliquait ses talents d'orateur. Il disait, mais vous savez, moi j'ai pas appris à parler. En fait, je parle de ce que je vis, tout ça je l'ai vécu. Et il voulait toujours rester extrêmement simple, extrêmement naturel. Et d'ailleurs, moi j'ai trouvé que c'était très important de rendre ça dans la traduction des discours. Vraiment rester dans cet art oratoire qui était le sien. Mais il devient aussi le porte-parole officiel de la Nation de l'Islam, tout simplement parce qu'il est très très proche de Muhammad.
Qui en est le chef.
Et Malcolm X reproduit vraiment et amplifie la pensée de Muhammad.
Et puis alors il fait des conversions et convertit de nombreux adeptes, comme le plus célèbre boxeur du monde à l'époque, Cassius Clay, qui prend le nom de Muhammad Ali.
One of the interesting developments of this always interesting young man called Cassius Clay is that he has changed.
Cassius Clay a changé de nom. Avec sa nouvelle religion, il s'appelle Muhammad Ali.
He is now Muhammad Ali, I believe.
I think that Muhammad Ali is a very wonderful brother.
Muhammad Ali est un frère merveilleux et un champion à tout point de vue.
We look up to black, we are not ashamed of being black.
Nous sommes fiers d'être noirs, ce que nous n'étions pas avant. Avant, nous servions le blanc sans savoir que c'était le diable. Nous avons assez de force pour faire ce que d'autres ont fait pour eux-mêmes. Si 22 millions de Noirs américains ne peuvent fonder un État indépendant en Amérique, alors ce sera ailleurs.
On vient d'entendre Philippe Godard, ce que réclame, ce que veulent le programme de la Nation de l'Islam, des musulmans noirs, n'a rien à voir avec Martin Luther King, avec la non-violence. Martin Luther King veut l'intégration, là, à l'évidence, c'est carrément l'indépendance que veulent les musulmans noirs.
Effectivement, tout à l'heure, quand j'ai dit la déségrégation, il y a la déségrégation à la Martin Luther King, c'est-à-dire l'intégration, tandis que la déségrégation, selon Malcolm X et selon la Nation de l'Islam, c'est au contraire une nation séparée, une nation très clairement séparée. D'ailleurs, c'est une idée qui était déjà l'idée de Marcus Garvey, c'était aussi l'idée qui avait présidé à l'envoi d'un certain nombre d'Afro-Américains au Libéria. Donc, c'est pas une idée non plus tout à fait étrange, c'est une idée qui est vraiment répandue à cette époque-là.
Un noir qui disait à Malcolm X qu'il était américain avant d'être noir parce qu'il était né sur le sol américain, Malcolm X avait répondu un jour, si la chatte met ses petits au monde dans un four, est-ce que cela en fait des biscuits? Donc pour lui, c'était vraiment un État ou des États qui devaient être confiés aux Noirs. Il y a aussi ce sentiment de fierté que leur donne notamment l'adhésion de Muhammad Ali, hein, la fierté d'être noir.
L'adhésion de Muhammad Ali est extrêmement importante, mais Malcolm X, lui, insiste aussi sur la fierté d'être africain. L'Afrique pour lui, parce que évidemment Malcolm X, Cassius Clay, évidemment c'est un symbole énorme, le champion du monde poids lourd, c'est sûr que c'est un symbole énorme, mais Malcolm X était extrêmement attaché à l'Afrique, et d'ailleurs ses voyages en Afrique le montrent, et pour lui, non seulement il fallait être fier d'être noir, mais il fallait être tout à fait fier des origines africaines.
Au point d'affirmer que Jésus-Christ, que Dieu était noir, hein, c'était quand même assez étonnant, beaucoup d'anti-américanisme, beaucoup d'antisémitisme aussi, il s'en prend assez souvent aux juifs, au pouvoir des juifs aux États-Unis.
Alors ça dépend des périodes, parce que disons que jusqu'à ce qu'il quitte la Nation de l'Islam, de toute façon Malcolm X est raciste, il parle toujours des diables blancs aux yeux bleus, donc tout ce qui n'est pas noir ne trouve pas grâce à ses yeux. Mais ce qui est intéressant, c'est à partir du moment où il se rend compte que ce n'est pas possible que les Noirs avancent tout seuls pour leur libération, qu'il va falloir qu'ils passent des alliances et que ces alliances, finalement, vont être des alliances fondamentales, vont pas être des alliances tactiques, ça va être des alliances stratégiques. Il commence à comprendre, petit à petit, qu'il y a quelque chose au-delà de la race, entre guillemets, hein, et qu'il y a l'humanité, la fraternité. Et il va terminer en quelques mois, il va complètement changer d'orientation politique.
Oui, mais restant quand même fidèle à sa stratégie violente, considérant que la non-violence, ça ne suffit pas. D'ailleurs, il va même
presque se réjouir publiquement, ce qui a scandalisé l'Amérique et d'ailleurs même les musulmans noirs, se réjouir presque de la mort, de l'assassinat de Kennedy en 1963, et c'est à ce moment-là qu'il est écarté progressivement du mouvement des musulmans noirs, ce qui va le conduire à créer son propre mouvement, l'organisation de l'unité afro-américaine, avec laquelle il continue de préconiser la violence.
Les blancs peuvent nous aider mais pas se joindre à nous. Pour ce qui est de la non-violence, il est criminel d'enseigner à un homme de ne pas se défendre alors qu'il est constamment victime d'agressions violentes. Il y a des problèmes dans notre communauté comme ces vices qui détruisent notre force morale. L'alcoolisme, la drogue, la prostitution, le crime organisé qui nous prive de 90% de notre potentiel économique. Une des raisons de mon combat est de choquer, de réveiller les Blancs. Car s'ils ne se réveillent pas, ils vont découvrir que ce petit nègre qu'ils croyaient passif est devenu un lion rugissant et incontrôlable.
Un commentaire sur ce que disait Malcolm X, justement, en 64, là, c'est encore un homme très violent qui parle. Et c'est encore un musulman. Il n'est plus dans la nation de l'islam, il n'est plus un bac muslim, il en a été viré, mais il reste très musulman.
Il reste musulman, mais lors de ses voyages en Afrique et puis en Arabie, il va découvrir quelque chose qui ne supposait absolument pas auparavant, savoir que l'islam n'est pas une idéologie raciste. Et d'ailleurs, c'est pour ça, il va souligner, pour lui, c'est très important. La nation de l'islam n'était finalement pas affiliée au mouvement musulman international, forcément, puisque Elijah Muhammad disait que tout, comme vous le disiez tout à l'heure, les noirs. Alors évidemment, les arabes pouvaient pas se reconnaître là-dedans. Et d'un seul coup, il va comprendre que l'islam n'est pas une idéologie raciste. Il va comprendre aussi que politiquement, il y a quelque chose à faire, et que politiquement, la nation de l'islam, c'est zéro. Il le dit. Il dit que la nation de l'islam capte l'énergie et l'activité des Noirs, mais pour la détourner vers des fins qui finalement ne sont pas politiques. Et si on n'a pas des fins politiques, on n'arrivera à rien. C'est ce qu'il dit à partir du début de 1964. Et le discours va aller en s'amplifiant jusqu'à sa mort.
Jusqu'à ce discours de 65 qui marque vraiment un changement. Il compte moins sur la violence et que sur les bulletins de vote, à l'évidence. Ça, c'est ce discours que vous reproduisez dans ce livre, Philippe Godard, et qui marque un tournant. Mais là, on est au tout début de l'année 65.
Ah, c'est quelques semaines avant sa mort. Et là, il insiste surtout sur la pensée. D'ailleurs, le titre du discours, c'est « Pensez par vous-même ». C'est le titre que lui-même avait donné à son propre discours. Et là, c'est très très important. Il dit, mais vous voulez le droit de vote, vous voulez aller voter, mais est-ce que vous savez pour qui vous allez aller voter? Parce que le droit de vote, ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est de savoir pour qui on va voter. Donc il est effectivement, il ne dit pas n'allez pas voter, abstenez-vous, lancez des cocktails Molotov, point à la ligne. Mais il dit, si vous allez voter, sachez au moins pour qui vous allez voter. Et surtout, ce qui compte, c'est que la communauté noire présente un front uni. Pour lui, c'est absolument fondamental.
Oui, mais il la divise, il crée son propre mouvement à partir des Black Muslims, donc par conséquent, il préconise l'union, mais il pratique la division.
Ça dépend, parce que de son point de vue à lui, Elijah Muhammad, finalement, la nation de l'islam, ne divisait peut-être pas les Noirs, mais en tout cas, les embrigadait dans quelque chose qui n'était pas de la politique. Or, lui, ce qu'il veut, c'est que politiquement, les Noirs soient unis. Et par exemple, quand il dit « pensez par vous-même », il dit aussi qu'il est prêt à apporter son soutien aux militants non-violents du Tennessee ou de l'Alabama.
En tout cas, il inquiète terriblement cette nation de l'islam qu'il a quittée et qui craint, avec Elijah Muhammad, que beaucoup de gens la quittent pour rejoindre Malcolm X. Il inquiète aussi les États-Unis dans ses voyages à l'étranger, quand il critique la politique américaine. N'oublions pas que c'est l'époque où l'Amérique s'engage dans le Vietnam, et tout explique donc cet attentat, cet assassinat du 21 février 65. Chose curieuse, il est assassiné par trois musulmans noirs.
Alors maintenant, on pense aujourd'hui que les trois musulmans noirs qui l'ont assassiné étaient vraisemblablement, sinon manipulés par le FBI, en tout cas que le FBI aurait laissé faire. Mais enfin, je pense que, comme beaucoup d'assassinats très importants aux États-Unis, on va avoir du mal à savoir jamais qui sont les coupables. Mais en tout cas, qui avait intérêt à tuer Malcolm X? Et la nation de l'islam, c'est sûr, mais aussi le pouvoir américain qui avait intérêt à le faire taire. Et d'ailleurs, on voit bien ce qui se passe après avec les Panthères Noires et le nombre de militants des Panthères Noires qui ont été assassinés.
Et c'était le 21 février 1965. On écoute France Inter le lendemain.
Malcolm X, le leader extrémiste noir, assassiné à New York, en plein centre de Harlem.
De New York, Robert Cézé.
À Harlem, cet assassinat a surpris la population. La majorité des Noirs, sans avoir une estime particulière pour Malcolm X, rendait hommage à son courage, à sa foi ils ne comprennent pas que ce soit un des leurs qui l'ait tué.
Here.
Ici.
At this final hour,
en cette heure dernière.
In this quiet place,
dans ce lieu paisible.
Harlem, has come to bid farewell,
Harlem est venu dire adieu à l'un de ses espoirs les plus radieux, aujourd'hui éteint, et qui nous a quittés pour toujours.
It is not in the memory of man,
de mémoire d'homme, notre communauté, cernée par tant de malheurs et pourtant si fière, n'avait jamais trouvé de jeunes champions plus braves et plus valeureux que cet Afro-Américain qui gît devant nous, à jamais invaincu.
C'était Ossie Davis rendant hommage à Malcolm X. Afro-américain, c'est Malcolm X qui avait trouvé la formule qu'on utilise aujourd'hui.
Oui, effectivement, il y a une évolution. C'est sûr que les formules ont changé. Afro-américain, c'est ce qui lui semblait le plus juste.
Est-ce que c'est pas l'histoire d'un échec malgré tout? Est-ce que c'est la violence de Malcolm X ou est-ce que c'est la non-violence de Martin Luther King qui a réalisé des avancées dans l'égalité des Noirs, en tout cas la suppression de la ségrégation?
Là, on peut répondre sans ambiguïté que c'est les deux, mais il me semble que le Malcolm X, il me semble que c'est pas du tout un échec, parce qu'au contraire, voyez par exemple, pensez par vous-même, voilà quelque chose qui reste extrêmement actuel, par tous les moyens nécessaires. Si on se penchait réellement sur ce que signifie cette expression, il y a aussi quelque chose qui est très très important, parce qu'il faut se poser la question de la nécessité des moyens qu'on va utiliser par rapport à des buts politiques. C'est une question que malheureusement on oublie souvent aujourd'hui.
Pensez par vous-même, c'est donc le titre de ce discours de 1965 que vous publiez dans vos éditions Les Documents Syros. Philippe Godard est précédé d'une présentation justement de la vie de Malcolm X dont vous avez parlé aujourd'hui. Vous avez pu entendre des extraits du film Malcolm X de Spike Lee, disponible en DVD aux éditions Pathé, du documentaire de William Klein, Muhammad Ali The Greatest, en DVD chez Arte Vidéo, ainsi qu'une archive Pathé de 1957 aux éditions Montparnasse. Et puis je signale qu'à partir d'aujourd'hui, pendant toute la semaine, nous vous proposons un nouveau jeu pour gagner Éphéméris, un livre édité par France Inter et les éditions de l'Archipel. Il s'agit de la chronique de 1000 ans d'histoire au jour le jour, accompagnée d'un CD-ROM et 45 000 dates anniversaires de la documentation de Radio France. Pour gagner ce livre Éphéméris et le CD-ROM, il vous suffit de répondre à la question du jour. Le 27 novembre 1977, il y a 30 ans, s'est produit le premier atterrissage aux États-Unis. Réponse 1 de la navette spatiale, réponse 2 du Concorde, réponse 3 de l'Airbus. Je répète, qu'est-ce qui a atterri aux États-Unis le 27 novembre 1977? La navette spatiale, Concorde ou l'Airbus? Pour jouer, appelez le 3230, 34 centimes la minute, puis donnez votre réponse en suivant les instructions. Vous trouverez aussi tous les détails de ce jeu et des renseignements sur notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Sophie Moreno et Julien Chevassu. Documentation et archives sonores, Claire Destacan, Emmanuel Fournier, Catherine Louis et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Comilac.